Merci. Alors, je vais un petit peu changer la problématique, puisque je vais même l'inverser. Je vais non seulement m'intéresser à des représentations de figures humaines, mais en plus poser la question de savoir si ces figures fondatrices représentent elles-mêmes des hommes, donc des groupes sociaux, ou plutôt des concepts abstraits. Et ce sera mon analyse. Donc, dans la société occidentale moderne, où les structures étatiques sont distinctes de la société civile et où la nature d'une fonction n'est pas censée se confondre avec la personne qui en détient le titre, la réflexion politique passe par la rédaction de traités théoriques abstraits. Dans les sociétés anciennes, auxquelles était totalement étranger le concept de distinction entre structures étatiques et groupes sociaux, ou entre fonctions et individus détenteurs de ces fonctions, cette réflexion théorique ne pouvait se faire qu'en situation. Autrement dit, il n'y a pas de distinction entre sciences politiques et récits historiques. Toutefois, pour avoir valeur paradigmatique, ce récit historique doit être modelé sur un schéma narratif codifié à travers lequel il fait précisément sens. L'exemple le mieux connu de schéma narratif servant de vecteur d'une réflexion politique est celui qui, en Mésopotamie comme dans la tradition biblique, avait pour fonction de penser la royauté, plus précisément la légitimité royale. Cependant, aux époques perses et hellénistiques, la Judée a connu des formes de pouvoir bien différentes de celles de la royauté davidide. Comment ces nouvelles formes de pouvoir ont-elles été représentées ? C'est à cette question que je m'intéresserai aujourd'hui, en m'appuyant sur deux séries de textes. D'une part, le livre hébraïque d'Esdras-Néhémie et son parallèle grec d'un Esdras. D'autre part, les deux premiers livres des Maccabées. Ces quatre textes ont en commun de se présenter comme une succession de récits dont chacun met en scène une ou plusieurs figures fondatrices différentes. Ainsi, la première réaction des savants modernes a-t-elle été de considérer ces textes comme composites ? Je me propose au contraire de montrer que cette structure à séquences narratives multiples faisant s'enchaîner époques et personnages est précisément le procédé littéraire au moyen duquel les lettrés de Judée ont rendu compte de trois sortes de situations politiques particulièrement complexes. Situation de transition d'un régime à l'autre, situation de transition d'une dynastie à l'autre, ou bien de cumul de pouvoir ressenti comme étant de nature différente. En outre, j'aimerais suggérer qu'au-delà de l'étude de ces quatre textes, la mise en évidence de ce procédé littéraire doit nous inviter à reconsidérer la fonction d'autres récits de la tradition biblique se caractérisant par un jumelage entre deux figures fondatrices et on peut penser par exemple au jumelage entre Moïse et Aaron. Mais avant de venir à l'étude des textes mêmes, commençons par examiner le schéma narratif sur lequel ces textes sont construits. Ce schéma narratif, servant à exprimer l'idée de légitimité royale, est centré sur l'acte de fondation du temple de la divinité tutélaire par le roi, par le futur roi. Dans sa forme codifiée, ce récit se repose sur l'idée d'un contrat entre le roi et sa divinité. D'une part, le roi construit ou reconstruit la maison du Dieu, c'est-à-dire son temple, et de l'autre, la divinité construit la maison du Dieu, c'est-à-dire lui promet une descendance dynastique. Ce contrat constitue le fondement de l'idéologie de la royauté d'élection divine. La représentation du roi comme bâtisseur du temple est donc bien une idéologie du pouvoir et donc politique. C'est là ce qui explique que le schéma narratif des récits de fondation du temple ait été étendu à d'autres formes de construction édilitaires, construction du palais, construction des murailles de la ville ou tout autre monument dont la construction pouvait, d'une façon ou d'une autre, être perçue comme desservant les besoins de la société et donc de la divinité. En outre, en Judée, on observe que ce schéma narratif, qui est utilisé pour relater la construction du temple de Jérusalem par Salomon à la fois dans les livres des rois et dans les chroniques, a survécu à la chute de la royauté davidide pour continuer à exprimer la notion de légitimité du pouvoir, quelle que soit sa forme. Quand ainsi, à l'époque hellénistique, la dynastie sacerdotale des Oniades s'arrogea de facto les pouvoirs régaliens du gouverneur, c'est le grand prêtre qui se mit à incarner la figure du bâtisseur. Il en est ainsi du portrait du grand prêtre Simon dans le livre de la sagesse du Siracide qui date du tout début du IIe siècle. Les quatre textes qui nous intéressent ici intègrent tous ce schéma narratif de fondation édilitaire mais à chaque fois avec des variantes surprenantes. Soit le schème est dédoublé dans un même texte, soit les séquences en sont divisées entre plusieurs personnages. Ce sont ces variantes qui retiendront notre attention, et dans la mesure où les cas les plus faciles à analyser sont les textes des Maccabées, je commencerai par ces textes. Les livres des Maccabées relatent la persécution religieuse d'Antiochos IV contre les Juifs en 168 avant notre ère, persécution au cours de laquelle le temple est profané, puis la révolte des Maccabées et enfin leur reconquête de Jérusalem et du temple. Un Maccabée prolonge en outre son récit jusqu'à l'accession au pouvoir en 134 de Jean Hyrcan, le fils de Simon Maccabée, qui marque la fondation de la dynastie asmonéenne. L'ouvrage se compose de plusieurs cycles narratifs successifs, de longueur et d'importance inégales. Le premier couvre le temps de la persécution, tandis que les suivants sont successivement centrés sur les prouesses de Mattathias, le père, puis sur celles de Judas, Jonathan et Simon, les trois frères Maccabées, et enfin les deux derniers versets résument le règne de Jean Hyrcan. Les deux cycles de loin les plus importants sont ceux de Judas et Simon, donc que j'ai marqué en rouge, qui sont tous deux modelés sur le chêne narratif de fondation. Cependant, si le cycle de Judas met en scène une fondation du temple sous forme de dédicace d'un nouvel autel, et il s'agit là de l'épisode fondateur de la fête de Hanouka, Simon fonde un palais, ou plutôt deux palais, un pour lui-même et un pour son fils. En outre, les deux cycles sont reliés par un élément narratif commun, le sort de l'Acra, la forteresse construite par Antiochos IV pour surveiller le temple. Du fait qu'y résidait une garnison étrangère, cette forteresse est présentée dans un Maccabée comme faisant peser sur le temple une menace constante de souillure. Or, parallèlement à la refondation du temple, Judas avait tenté de s'emparer de l'Acra, mais en vain, avec pour conséquence que la refondation du temple restait inachevée du fait de cette souillure continuelle. C'est donc à Simon que revint la gloire de prendre l'Acra, d'en chasser les étrangers et de construire son palais sur son emplacement, parachevant ainsi l'œuvre de refondation du temple. Ainsi, dans un Maccabée, la refondation du temple par Judas et la construction du palais par Simon sont-elles représentées comme deux actes complémentaires. Le sens de cette structure littéraire est triple. Tout d'abord, la double fondation de palais par Simon, un pour lui-même et un pour son fils, symbolise l'instauration du principe de transmission dynastique du pouvoir dans la dynastie asmonéenne. Ensuite, la juxtaposition du récit de fondation du temple par Judas et de celle du palais par Simon doit se lire à deux niveaux. Au niveau diachronique, elle permet de résoudre un problème idéologique majeur. Si Simon est bien le fondateur de la dynastie asmonéenne, il n'avait pas à son actif de fondation de temple. En associant étroitement les figures de Judas et de Simon entre elles, ainsi que les deux récits de fondation du palais et du temple, le texte restaure donc le lien symbolique indispensable entre fondation de temple et fondation dynastique, affirmant par là même la légitimité des Asmonéens. S'ajoute à cela un niveau de lecture synchronique. En effet, la dynastie asmonéenne s'est caractérisée par un mode de gouvernement inédit en Judée, puisqu'il cumulait les titres de grand prêtre et de roi. En coordonnant dans un même ouvrage les deux récits de fondation du palais et du temple et les deux figures de fondateurs, Judas et Simon, le premier livre des Maccabées avait donc aussi pour fonction de légitimer le cumul des pouvoirs sacerdotaux et régaliens par les Asmonéens. Cette interprétation se va confirmer par le récit parallèle de deux Maccabées vers lequel je me tourne maintenant. Le récit actuel de deux Maccabées se compose de deux lettres placées en préface que je laisse de côté et de trois cycles narratifs. Le premier, centré sur la figure d'Onias III, le dernier grand prêtre de la dynastie des Oniades, raconte comment le temple fut menacé d'un danger extérieur puis sauvé grâce à la piété d'Onias III. Le deuxième cycle rapporte les événements commémorés dans la fête de Hanouka, y compris bien sûr la refondation du temple sous forme de dédicace du nouvel autel. Le troisième cycle relate un nouvel épisode de profanation du temple et de sa refondation, débouchant sur l'instauration d'une autre fête commémorative, le jour de Nicanor, du nom de son profanateur. Le héros de cette dernière refondation est Judas Maccabée, et c'est dans ce cycle que le cumul des pouvoirs sacerdotaux et régaliens caractérisant les Asmonéens est mise en scène et légitimée. En effet, à la veille de la bataille décisive précédant la refondation du temple, Judas reçoit un songe au cours duquel lui apparaissent conjointement Onias III, le dernier grand prêtre Oniade et le héros du premier cycle narratif du livre, et le prophète Jérémie. Dans le songe, Onias étend sa main pour bénir Judas, l'intronisant ainsi comme son successeur légitime en tant que grand prêtre, tandis que le prophète Jérémie lui remet une épée, lui conférant par là même le pouvoir régalien par excellence, celui de faire la guerre. Contrairement à 1 Maccabée, donc, où les deux pouvoirs cumulés sont symbolisés chacun par une figure différente, Judas et Simon, ils sont ici réunis en une seule personne, Judas, qui incarne aussi, par ailleurs, la figure de refondateur du temple. En outre, ses pouvoirs lui sont transmis par deux personnages, Onias III et Jérémie, qui sont à même, de par leur statut, de garantir la légitimité de ce cumul. Comme 1 Maccabée, donc, le troisième et dernier cycle narratif de 2 Maccabées a pour fonction de légitimer la forme de pouvoir détenue par les Asmonéens. Quelle peut donc être, dans ces conditions, la fonction du deuxième cycle narratif relatant les événements fondateurs de la fête de Hanouka, à savoir la persécution religieuse, la reconquête de Jérusalem et la dédicace du Temple. La fonction principale de ce cycle, dans l'optique de la propagande asmonéenne, est d'attaquer la légitimité des deux grands prêtres, Jason et Ménélas, qui avaient pris le pouvoir après avoir renversé Onias III. À en croire l'auteur de 2 Maccabées, ce serait par leur faute qu'Antiochos IV aurait pris Jérusalem d'assaut pour y persécuter les Juifs et profaner le Temple. Or, de même que fondation du Temple et légitimité royale vont de pair, l'accusation de profanation du Temple revient à dénoncer Jason et Ménélaos comme des usurpateurs indignes. Le caractère illégitime de leur pouvoir est rendu particulièrement évident dans la scène de fondation elle-même. En effet, si Judas Maccabée dirige la cérémonie de refondation du troisième cycle narratif du livre, dans le deuxième, elle aurait normalement dû être présidée par Ménélas, puisque c'était alors lui le grand prêtre en titre. Or, Ménélas s'étant disqualifié par son acte de profanation, c'est le peuple qui, en l'absence d'un leader légitime, prend en charge la refondation. Ce que met en scène cette séquence narrative, c'est donc l'idée d'une vacance du pouvoir légitime. Le sens de la juxtaposition des trois cycles narratifs en 2 Maccabées peut donc se résumer ainsi. Le premier cycle, celui d'Onias, dépeint la vie à Jérusalem sous un grand prêtre pieux. Le deuxième cycle, celui de Jason et Ménélas, campe une situation de vacance du pouvoir du fait de l'impiété des grands prêtres usurpateurs. Le troisième cycle, celui de Judas, voit ce dernier intronisé à la fois comme grand prêtre et comme roi par Onias III et le prophète Jérémie, une mise en scène clairement destinée à nous faire oublier que les Asmonéens, tout autant que Jason et Ménélas, étaient après tout des usurpateurs, en présentant Judas comme l'héritier légitime d'Onias III. Pour conclure sur les livres des Maccabées, ces récits apparaissent donc comme complémentaires. 2 Maccabées doit se lire comme un discours idéologique sur la transmission du pouvoir entre les Oniades et les Asmonéens. 1 Maccabée met l'accent sur l'instauration du principe dynastique chez les Asmonéens en couvrant les événements jusqu'à la passation de pouvoir entre Simon et son fils Jean Hyrcan. En outre, les deux textes justifient le cumul des pouvoirs sacerdotaux et royaux par les Asmonéens, descendants des Maccabées, le premier par le jumelage de deux figures, Judas et Simon, le deuxième à travers le seul Judas. Or, on retrouve la même structure de complémentarité thématique entre le livre hébraïque d'Esdras-Néhémie et le livre grec d'un Esdras. Je commencerai mon analyse par ce dernier. Un Esdras se compose d'un grand nombre de personnages et de séquences narratives enchaînées. La première nous situe au temps de la royauté davidide et dépeint la célébration de la fête de la Pâque par le roi Josias, couronné par trois vagues de départ en exil. C'est la figure du prophète Jérémie qui assure d'une part le lien entre ces trois épisodes et d'autre part, par le biais de deux citations qui lui sont attribuées, la transition entre les trois vagues d'exil et la période du retour qui s'opère lui aussi en trois vagues, donnant lieu à trois cycles narratifs. Le premier cycle du retour a pour protagoniste le roi perse Cyrus qui donne l'autorisation de refonder le temple, ainsi que du côté judéen, Sheshbatsar, qui prend la tête des hommes rentrant d'exil. Cependant, le projet de refondation du temple est interrompu. Le deuxième cycle campe d'un côté le roi Darius et de l'autre Zérubbabel. Cette fois, la reconstruction du temple est achevée et la cérémonie de dédicace est en outre suivie de la célébration de la fête de Pâques, événement qui à la fois renvoie à la célébration de la fête sous Josias et à son tour à valeur d'événement fondateur pour l'époque du retour. Le troisième cycle nous place sous le roi Artaxerces, qui autorise Esdras à ramener en Judée une troisième vague d'exilés, tandis que le dépôt au temple des derniers objets sacrés rapportés d'exil parachève la refondation du temple. Suite à quoi se tient une nouvelle cérémonie fondatrice qui, cette fois, a pour objet la première lecture de la loi. Le message politique et idéologique qui resserre de la juxtaposition des cycles narratifs en Esdras est triple. Tout d'abord, une série d'éléments vient confirmer la continuité physique et symbolique entre l'ancien temple et le nouveau. Le parallèle entre la cérémonie de Pâques de Josias et celle de Zérubbabel. La symétrie entre les trois vagues de départ en exil et les trois vagues de retour. Ainsi que le rôle de fil conducteur joué par la figure de Jérémie tout au long du récit. Le deuxième message concerne le parallèle entre les deux cérémonies de Pâques et la lecture de la Torah, qui vient légitimer le statut de cette dernière, qui est une innovation de l'époque du retour. Le troisième aspect concerne le rapport entre les personnages de Josias, Sheshbatsar, Zérubbabel et Esdras. À travers la juxtaposition de ces thèmes, donc, Esdras propose une réflexion sur la transition entre deux périodes, celle de l'ancien temple et celle du nouveau temple, et deux formes de pouvoir, la dynastie royale Davidide et la dynastie des grands prêtres Oniades. Ainsi, le thème de la continuité entre l'ancien temple et le nouveau sert tout d'abord à affirmer que le nouveau temple est à même d'assurer la fonction de garant de l'ordre social et divin. Le temple est ensuite associé à une série de personnages de statuts différents. Josias est ainsi un roi Davidide associé au temple de Salomon. Sheshbatsar et Zérubbabel sont également des figures Davidides, mais cette fois associées au nouveau temple. Et enfin, la figure d'Esdras. À la différence du livre massorétique, où Esdras est simplement présenté comme scribe et prêtre, dans 1 Esdras, il se voit accorder le titre de grand prêtre. De même, seul dans 1 Esdras, met en avant l'ascendance davidique de Zérubbabel, donc ce texte tient visiblement à insister sur la succession entre des Davidides et un grand prêtre. Le livre hébraïque d'Esdras et Néhémie présente les choses de façon très différente. Tout d'abord, le livre ouvre sur le récit de la reconstruction du temple à l'époque perse, sans référence aucune à la période de royauté davidide. Ensuite, la rédaction finale met beaucoup de soin à présenter Esdras et Néhémie comme des contemporains. En effet, sur le plan de la composition du texte, leurs deux cycles narratifs respectifs sont imbriqués l'un dans l'autre. Ainsi, toute la thématique de la transmission entre d'une part deux époques et d'autre part deux formes de pouvoir, qui est centrale en 1 Esdras, est absente d'Esdras-Néhémie. Par contre, le sens du texte massorétique est à chercher dans le jumelage entre Esdras et Néhémie. Or, si le premier, Esdras, instaure la royauté de la Torah, le second, Néhémie, refonde les murailles de la ville dans un récit qui est scrupuleusement modelé sur le chaîne narratif des refondations édilitaires. Le message implicite est donc que la refondation de la Torah n'est possible que si elle est garantie par la restauration du pouvoir politique symbolisé par les murailles protectrices. Pour conclure, il me semble que l'analyse des quatre textes que j'ai proposés ici est porteur d'un enseignement plus large. Du fait de l'influence durable, non seulement de la théorie documentaire, mais aussi de l'anthropologie dite fonctionnaliste, de nombreux exégètes bibliques tiennent pour acquis qu'une figure biblique représente un groupe social précis qui se reconnaît et se projette en elle. Dans cette optique, l'association de deux personnages dans un même texte est comprise comme étant le résultat d'un compromis entre deux milieux sociaux. Ainsi, l'association entre Moïse et Aaron dans le livre de l'Exode est-elle interprétée comme la preuve de ce que le texte, dans son état actuel, est le résultat d'une fusion entre deux traditions, l'une portée par des scribes royaux, dont Moïse serait le champion, et l'autre portée par les scribes du temple, qui se reconnaîtraient en Aaron. Et par la même occasion, on crée deux milieux sociaux bien distincts, les scribes royaux et les scribes du temple, qui sont même antagonistes. L'analyse de texte que j'ai présentée ici prouve qu'une figure fondatrice peut représenter non pas un milieu social, mais un concept abstrait. Le jumelage entre plusieurs figures apparaît alors comme la technique littéraire permettant de représenter des concepts complexes. Ces exemples invitent peut-être à reprendre l'interprétation d'autres paires de figures emblématiques apparaissant dans d'autres textes. Si ces figures jumelées, comme Moïse et Aaron, se révélaient elles aussi être des vecteurs d'une réflexion sociale et politique et non pas des représentants de milieux sociaux antagonistes, s'ouvrirait en outre la possibilité de concevoir de façon différente les structures sociales de la Judée et les rapports entre milieu du temple et milieu du pouvoir politique. Je vous remercie.